La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire du monde.
Voilà le monde colonial. L'indigène est un être parqué. L'apartheid n'est qu'une modalité de la compartimentation du monde colonial. La première chose que l'indigène apprend, c'est à rester à sa place, à ne pas dépasser les limites. C'est pourquoi les rêves de l'indigène sont des rêves musculaires, des rêves d'action, des rêves agressifs. Je rêve que je saute, que je nage, que je cours, que je grimpe. Je rêve que j'éclate de rire, que je franchis le fleuve d'une enjambée, que je suis poursuivi par des meutes de voitures qui ne me rattrapent jamais. Pendant la colonisation, le colonisé n'arrête pas de se libérer entre 9h du soir et 6h du matin.
Les mots de Frantz Fanon dans La Marche du Monde, extrait de son dernier livre, Les damnés de la Terre, paru en 1961, l'année de sa mort foudroyante. Fanon a 36 ans et sa vie est une succession de révolutions. Frantz Fanon l'Antillais, Frantz Fanon l'Algérien, Frantz Fanon l'Africain, chacun de ces masques raconte comment s'est forgée la pensée du psychiatre en évolution permanente. Et c'est ce que nous montre son biographe Adam Schatz dans son livre paru aux éditions La Découverte. Car avant d'être un révolutionnaire, Fanon était un thérapeute et sa réflexion sur la société coloniale a pris forme dans l'enfermement, dans les hôpitaux, dans les asiles, mais aussi dans ce qu'il considère la prison de la race. Ce que Fanon a connu toute sa vie en tant que noir. Adam Schatz est notre invité dans ce nouvel épisode de La Marche du Monde, consacré au masque de Frantz Fanon, au son de nos archives sonores et musicales. On s'écoute déjà Nature Morte du groupe hip-hop La Rumeur. Vous êtes sur RFI.
Positif sur la France et son passé de colon. Autant pisser dans un violon. Ne pense pas émotif sur la question. En oubliant de dire merci pour l'abolition. Délicate attention, j'ai dû laisser mon histoire dans le noir. À la gloire de l'homme et sa furie. De sa barbarie, entre carnage et tuerie, il n'y avait pas chlore et curie. Peux-tu entendre la douleur murmurer? Qu'elle ne se laissera pas emmurer dans l'oubli. Jamais à l'abri. Tellement négro qu'on déjà viré au gris. Allez voir plier aux caprices d'une patrie qui nous a laissé tellement de cicatrices. Que veux-tu que je retienne de cette haine des chaînes et de tout ce qu'ils ont violemment injecté dans mes gènes? Depuis le vol organisé qui s'opère sur nos terres, où on poussait les palaces, les pistes d'hélicoptères. On me demandera de me taire avec pour seul critère la servitude héréditaire, je te jure. Ils ont greffé le nègre à la misère, du fouet du propriétaire au fusil du militaire. Qu'as-tu à me dire si ce n'est qu'ils savent mentir sur des années entières de travail pour nous anéantir? Pire encore, pour qu'on oublie les massacres, qu'on en perde son créole et se cherche des reflets nacres. Putain de simulacre, m'évoque la triste époque des premiers viols et des premiers mulâtres. Le mépris n'allant pas sans, c'était le sucre au prix du sang. 2 millions d'hommes embrassant la mort en passant. Qu'as-tu à dire à ces corps pris pour chair à canon? À ces damnés de la terre, cher à Frantz Fanon. Du champ de coton au ghetto, à fond de cale du bateau. Depuis le temps qu'on nous enfonce la même lame de couteau. Au grand regret du temps béni des colonies, de leur putain d'hégémonie sur mon ethnie. Garder la mainmise sur nos sols, dépendance et dictature. Ce n'est pas qu'une mauvaise lecture, mais est-ce vraiment écrit pour nous enseigner l'essentiel? Pour que chaque plaie s'ouvre et vienne tacher leur ciel. Pour nous reconstruire ou pour nous maintenir dans le chaos, voire nous reconduire à la frontière et puis ciao.
C'est ma nature morte, mes douleurs fortes, qui de Guadeloupe à Gorée se glissent sous leurs portes. Nature morte et douleur forte, nature morte et douleur forte. C'est ma nature morte, mes douleurs fortes, qui de Guadeloupe à Gorée se glissent sous leurs portes. Nature morte et douleur forte, nature morte et douleur forte.
Vous êtes bien sur RFI, à l'écoute du groupe La Rumeur, pour accueillir notre invité Adam Schatz, l'auteur de Frantz Fanon, Une vie en révolution aux éditions La Découverte. Bienvenue dans la marche du monde, Adam Schatz.
Merci Valérie.
Nature morte, c'est un titre de 2007. Et le groupe La Rumeur n'est pas le seul groupe à faire référence à Frantz Fanon. Fanon est cité régulièrement dans le rap. Il est aussi un personnage de bande dessinée. Il est une référence incontournable des militants panafricanistes. Et puis, il est enseigné dans les universités. Il suscite un grand intérêt de la part des étudiants. J'ai eu l'occasion de le constater plusieurs fois à Dakar, à Alger, à Paris ou encore à New York. Comment, Adam Schatz, vous expliquez cet engouement autour de la figure de Fanon ?
Il est mort en 1961, quelques mois avant l'indépendance. Et cette fascination s'explique aussi par le fait que Fanon a écrit avec une intelligence très forte, mais aussi avec une sorte de poésie, parce qu'il était formé par une tradition de poésie antillaise. Son mentor était Aimé Césaire, le grand poète martiniquais qui est devenu un homme d'État en Martinique. Il a lu Senghor, il a lu Léon Gontran Damas, et même quand il écrivait sur la politique, sur la révolution, il y avait toujours ce côté poétique dans ses écrits.
Vous êtes vous-même un super fan de Frantz Fanon. En tant que rédacteur en chef pour les États-Unis de la London Review, en tant que collaborateur régulier de la New York Review of Books et du New York Times, qu'est-ce que vous, Adam Schatz, vous admirez plus particulièrement chez Fanon ?
C'est son insistance sur l'importance du côté psychologique dans la vie politique, ce que j'appelais dans le livre « La vie revêt d'une société coloniale, d'une société raciste ». Il comprenait que nos rêves sont une forme presque de l'action déplacée. Et si on ne comprend pas cette vie revêt, on ne comprend pas vraiment la politique, la vie que nous menons dans la vie quotidienne.
Et qu'est-ce qui vous pose problème chez Frantz Fanon ? Qu'est-ce que vous aimez le moins ?
La chose que j'aime le moins, c'est ses attitudes vers les femmes.
Parlons-en.
Oui. Il était plutôt misogyne. C'est un peu contradictoire parce que il a eu beaucoup d'amis femmes. Il a encouragé leur carrière, leurs projets politiques et intellectuels. Pourtant, dans ses écrits, il y a un côté très sexiste. Et on sait aussi qu'il a voulu que sa femme le considère un dieu. C'était un homme qui préfigure l'avenir, mais en même temps qui reflète les faiblesses et les bêtises de son époque.
Bon, vous êtes un super fan, mais vous restez très clairvoyant. Frantz Fanon, l'Antillais, ce sera le premier chapitre de notre épisode consacré au masque de Frantz Fanon, une enfance racontée par son frère, Joby Fanon.
Qu'était la vie à Fort-de-France ? Un père petit fonctionnaire, une mère petite commerçante, quatre sœurs et trois frères. Nous faisions ce que l'on appelait à ce moment-là une bande. Et nous nous confrontions souvent avec d'autres bandes, les bandes de la bande Red.
Vous confrontiez comment, physiquement ?
Ah, physiquement. Et Franz était déjà un meneur. On l'appelait à ce moment-là un baofier. Franz était toujours un peu plus pressé. Très tôt, il a voulu sauter des classes. Au cours moyen, il a voulu passer le certificat d'études. En deuxième année du bac, il a voulu passer la première année. Bref, il était pressé parce que, me disait-il, il faut que je vive vite parce que je ne vivrai pas longtemps.
Frantz Fanon, un jeune homme brillant, bagarreur et pressé, qui avait l'intuition de sa courte vie. C'est fascinant, Adam Schatz.
Mais c'est absolument passionnant que Fanon, qui est mort à 36 ans à Maryland, aux États-Unis, il a su très tôt qu'il meurait jeune. Comment est-ce qu'il a su ça ? Je ne sais pas, mais c'est assez frappant. Mais alors, il avait toujours le sentiment d'être pressé. il se dépêchait toujours. Et on le sent même dans ses écrits. Il écrit dans une sorte de code rapide. Et c'est peut-être pour ça que les rappeurs se sentent tellement intéressés par ses écrits.
Aux États-Unis, Frantz Fanon est cité également dans les chansons de rap.
Non, il n'est pas cité parce que nous avons notre Frantz Fanon à citer et c'est Malcolm X.
Et
à mon avis, Frantz Fanon dans le rap français est le Malcolm X du rap français.
Un jeune homme, Frantz Fanon, est pris de liberté, qui veut défendre la patrie de la Révolution française, qui veut défendre ses principes, égalité, liberté, fraternité. Un jeune homme qui, pendant l'occupation nazie et la collaboration, rejoint la révolte pro-gaulliste des Antillais, décide de se battre pour la France libre, mais sa désillusion, elle est immense. Pour quelles raisons, Adam Schatz, Fanon est-il déçu? Quelle expérience fait-il de la guerre?
Comme vous dites, il a rejoint les forces de la France libre, la dissidence martiniquaise. Il arrive au Maroc, dans les casernes, et il découvre quelque chose qui le déprime profondément, c'est que l'armée antifasciste organisée pour combattre le nazisme en Europe est une armée coloniale avec une hiérarchie raciale. Et lui, en tant qu'Antillais, il est le bénéficiaire de cette hiérarchie. Les tirailleurs sénégalais le considèrent un toubab. Les tirailleurs sénégalais sont traités très différemment. Ils mangent même une nourriture différente. Ils portent des uniformes différents et les Arabes aussi sont traités très différemment. Et Fanon est choqué parce qu'il n'a pas rejoint cette armée pour reproduire une hiérarchie raciale. C'était le contraire.
Pour les tirailleurs sénégalais, Fanon, c'est comme un soldat blanc.
Exactement.
Et en plus, après cet engagement dans l'armée, et c'est Marcel Manville, son compagnon d'armes, qui le raconte, ils sont tous les deux hyper en colère parce que la France leur refuse une bourse d'études après la guerre, alors qu'ils se sont sacrifiés pour leur idéal de la nation.
Oui, oui. Et les expériences que Fanon a eues en Europe, en France, après la guerre, avant cet épisode, était assez choquante pour lui parce qu'il voulait, il voulait danser avec une femme.
Au moment de la libération de Paris
Au moment de la libération, et il ne pouvait pas trouver une femme française qui voulait danser avec lui à cause de sa couleur. Il a eu aussi une expérience très choquante pour lui, peut-être l'expérience qui a produit sa désillusion avec la France républicaine. Il était dans un train et il y avait un jeune garçon avec sa mère. Et ce jeune homme a dit « Tiens maman, un nègre ». Et Fanon, en ce moment, s'est rendu compte que dans les yeux, même d'un jeune garçon...
D'un petit garçon,
il était noir, il n'était pas considéré français. Il avait plus en commun avec les tirailleurs sénégalais, dont il avait peur qu'avec les Français. Et pour lui, c'était une expérience bouleversante.
Cette conscience d'être noir, c'est tout le concept de la négritude inventée par Senghor, Damas, les sœurs Nardal et Aimé Césaire entre les deux guerres. On écoute la voix d'Aimé Césaire ensemble.
Mes chers amis, je dois vous dire tout de suite que aucun mot ne mérite davantage que le mot de négritude. Je n'aime pas du tout ce mot-là. Mais puisqu'on l'a employé et puisqu'on a tellement attaqué, je crois vraiment que ce serait manquer de courage que d'avoir l'air d'abandonner cette notion. L'apparition de la littérature de la négritude et de la poésie de la négritude n'ont produit un tel choc que parce qu'elles ont dérangé l'image que l'homme blanc se faisait de l'homme noir, qu'elles ont marqué l'entrée de l'homme noir avec son passé, avec son présent, avec ses qualités, avec ses défauts, donc avec sa charge d'âme, sa charge d'homme, son entrée dans le monde des abstractions et des stéréotypes que l'homme blanc s'était jusque-là fabriqué à son sujet de manière unilatérale. Et c'est bien cela, je crois, par là, contribuer à l'édification d'un véritable humanisme, d'un humanisme universel. Car enfin, il n'y a pas d'humanisme s'il n'est pas universel.
Aimé César, extraordinaire orateur, intellectuel, animal politique, une des plus grandes références pour l'antillais Frantz Fanon, Adam Schwartz.
Oui, il y a un mythe que Fanon était l'élève de César au lycée Schœlcher, à Fort-de-France, en Martinique. Ce n'est pas vrai. Pourtant, quand il a découvert la poésie de César, ça l'a beaucoup inspiré, parce que en France, après cet incident avec le jeune garçon dans le train, Fanon s'est mis à lire la poésie de Léopold Senghor. Et il écrit dans Peau noire, masque blanc qu'il a baigné dans l'irrationalité. Il se croyait doué avec des pouvoirs poétiques uniques à cause de la couleur de sa peau. Et il était sous l'influence de la vision de la négritude mystique et essentialiste de Senghor. Mais finalement, c'est la négritude de César qui séduit Fanon.
Et en tout cas, l'expérience fondatrice du racisme pendant la guerre, elle se poursuit en métropole, hein, puisqu'il vient faire ses études de médecine à Lyon. Et là, il continue à être regardé, interpellé. Il se prend sa couleur dans sa face, comme on dit.
Oui, il est même harcelé par la police quand il est avec sa femme Josie. La police l'accuse de proxénétisme.
Pour quelle raison?
Parce qu'elle était blanche.
Elle est blanche et lui, il est noir. Ça en dit long sur cette France des années 50.
Oui.
Ce qui est intéressant, c'est la façon dont Fanon réagit. On l'a dit au tout début, gamin déjà, il était bagarreur. Mmh. Et vous insistez dans votre biographie sur le fait que Fanon en veut à la Martinique pour ne pas avoir pris les armes contre le colonisateur français.
Oui, Fanon regrettait que la Martinique, que les vieilles colonies, la Martinique, la Réunion et Guadeloupe, contrairement aux Haïtiens, ont échoué de faire un grand soulèvement des esclaves contre la France. Alors pour lui, la fin de l'esclavage, la liberté qui venait en 1848 grâce à Victor Schœlcher, était une fausse liberté, parce qu'ils n'ont pas lutté pour la liberté. Ce n'était pas tout à fait vrai, parce qu'il y avait de soulèvements d'esclaves à la Martinique. Pourtant, il n'y avait pas un grand soulèvement au niveau de celle de Haïti.
En tout cas, ce Fanon, bagarreur, conscient de sa couleur depuis qu'il vit dans un monde de blanc en métropole, il est l'auteur de Peau noire, masque blanc, publié en 1952, et il diagnostique les symptômes du racisme en France. Et là, il développe en fait toute sa thèse sur l'aliénation. Alors, je vais vous demander de nous dire ça en quelques mots. Je sais que c'est difficile, mais néanmoins, pourquoi les Noirs sont-ils aliénés selon le docteur Fanon?
Selon le docteur Fanon, les Noirs sont aliénés de leur couleur parce qu'ils apprennent, très jeunes, qu'ils sont Noirs presque par accident. Ils apprennent que leurs ancêtres sont les Gaulois. Ils sont imprégnés d'attitudes blanches. Ils apprennent la suprématie des valeurs blanches.
Ils sont assimilés.
Ils sont assimilés et en plus, ils essaient de devenir blancs dans leur vie et de se comparer aux autres sur leur niveau de blancheur.
Et c'est ça l'aliénation justement. Et Fanon dit, attention, nous, les Martiniquais noirs, nous sommes aliénés, mais les blancs qui nous dominent, qui sont racistes avec nous, sont également aliénés.
Oh oui, oui. Parce que pour Fanon, la création d'un monde racial est le produit également, mais pas symétriquement, des Noirs et des Blancs. Il y a une sorte de complicité. C'est clair qu'il y a des victimes, il y a des bourreaux, mais les Blancs sont aussi aliénés d'eux-mêmes. Il écrit que le nègre n'est pas, pas plus que le blanc. Les deux identités sont des inventions qui ont le pouvoir de quelque chose de réel. de surréel presque.
C'est une invention de l'idéologie ouais. racialiste qui remonte au XVIIIe siècle. Alors se pose bien sûr la question de la désaliénation et de la révolution psychiatrique, expérimentée à l'époque par le psychiatre espagnol François Tosquelles. Il a fui la dictature de Franco, il cherche à introduire les théories marxistes à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique et Tosquelles, on va l'écouter ensemble, se souvient de son disciple Frantz Fanon.
La référence discrète au contraste de couleurs de nos peaux tournée au centre de nos entretiens. La chose en question fut aussitôt entendue ainsi par Fanon, puisqu'il m'offrit tout de suite son livre « Peau noire, masque blanc ». Puis il me raconta sa souffrance, éclatée tout récemment dans la rue, à Lyon, lorsqu'il se promenait avec sa fiancée, Blanche. Il fut interpellé violemment, amené et malmené pendant des heures au poste de police par des flics qui l'accusaient de s'adonner au trafic ou à la traite des Blanches. Dans ce premier entretien, plutôt que de retenir son conflit avec les flics de Lyon, je portais mon intérêt sur l'utilisation des masques dans les relations humaines dont il faisait état dans son livre. Je lui ai dit, quelle que soit la couleur de la face ou de la peau des uns et des autres, nous avançons tous masqués pour rencontrer les autres. Le masque est une mise en scène de la personnalité, mais ce qui rentre, en fait, dans les enjeux des rencontres, c'est la personne que le masque vient recouvrir par des artefacts. Toujours fait de convenance sociale.
Les réflexions du psychiatre espagnol Tosquelles et son dialogue lu avec Frantz Fanon, Entre vos oreilles, Adam Schatz, vous publiez aux éditions La Découverte une biographie politique et intellectuelle de Frantz Fanon. C'est donc avec ce bagage de social-thérapie que Frantz Fanon arrive à l'hôpital de Blida, en Algérie. Et là, nous sommes à la fin de l'année 53 et il n'a que 28 ans. Comment est-ce qu'on l'imagine, ce Frantz Fanon de 28 ans qui arrive en Algérie?
Je l'imagine jeune, ambitieux, avec plein d'énergie.
Ouais.
Et quelqu'un qui veut vraiment changer la donne qu'il trouve à Blida, parce qu'il arrive fin de 53, un an avant le déclenchement de la révolution algérienne, et il trouve un espace médical qui est complètement ségrégué. Les musulmans sont dans un pavillon, les femmes européennes dans un autre. Cet hôpital était fondé et très influencé par un psychiatre, Antoine Porot, qui était un modernisateur, mais en même temps un raciste biologique, qui pensait que les Algériens était génétiquement inférieur aux Européens. Alors, il voit les aliénés dans cet hôpital, et pour lui, c'est un peu comme l'univers concentrationnaire des hôpitaux mentaux pendant la Deuxième Guerre.
Et justement, Alice Cherki, devenue psychiatre, et qui a écrit aussi une biographie de Frantz Fanon, elle était dans le service psychiatrique de l'hôpital à Blida lors de l'arrivée de Fanon. Et elle le raconte.
Fanon découvre une société cloisonnée complètement en trois groupes. Même s'il y avait des gens qui ne se référaient pas à la religion, en tous les cas, c'était les chrétiens, les juifs et les musulmans. Et surtout une société dans laquelle il y avait une espèce de partition tacite, comme des parois de verre, d'ailleurs parce que personne n'avait vraiment le sentiment que quelque chose pouvait changer, que c'était dans l'ordre des choses. C'est vraiment ce que j'appelle un fait de structure coloniale. Donc il se retrouve effectivement dans cette société coloniale dont il ne mesurait pas à ce point le fonctionnement de cette société, sur tous les plans, et il découvre aussi ce qui va de pair avec cette société, la théorie de l'école de psychiatrie d'Alger, qui était la théorie du primitivisme. C'est-à-dire que les indigènes sont des primitifs, et sont des primitifs non seulement dans leur culture, etc., mais aussi biologiquement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le cerveau développé de la même façon que les Européens, ce qui expliquerait qu'ils sont menteurs, impulsifs, inadaptables au travail et incurables.
Et bien sûr, Frantz Fanon va tenter de révolutionner la théorie psychiatrique à l'hôpital de Blida.
Alors, il a deux services qui lui ont été confiés, un de femme européenne et l'autre d'homme indigène musulman. C'est très difficile à nommer, d'homme indigène musulman, puisque c'est comme ça que les appellations se sont successivement déplacées. Alors, chez les femmes, ce qu'il met en place, ça marche remarquablement. Le théâtre, le chant choral, toutes sortes d'activités de ce genre. Et il a beaucoup de difficultés dans le pavillon des indigènes musulmans, alors qu'il s'entoure là vraiment d'infirmiers qui parlent la langue, d'interprètes. Et ça ne marche pas du tout au début. Et il découvre en fait qu'il a au fond joué le jeu de l'assimilation, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il fallait aller justement à la recherche de ce qui faisait sens pour ces gens-là et que leur proposer de jouer à la pelote basque ou de faire de la vannerie à des hommes musulmans, c'était dénué de sens pour eux, parce que d'abord, tisser des paniers, c'est une activité pour les femmes, ancestralement. Je veux dire que jamais un homme des montagnes de Kabylie n'a tissé un panier, et que la pelote basque, ça n'avait pas beaucoup de sens. Et finalement, de proche en proche, il découvre qu'il faut trouver dans les modes de vie de ces personnes, eh bien, les structures. Mais c'est important parce que je veux dire qu'on n'a pas, on connaît très peu l'activité psychiatrique de Fanon.
Une archive France Culture, la voix d'Alice Cherki entre vos oreilles, Madame Schatz.
Il me plaît beaucoup d'écouter cette voix très, très jolie, très douce d'Alice Cherki, dont j'ai fait la connaissance il y a plus de 20 ans, bien avant que je me suis mis à faire mes recherches sur Fanon. Et je veux faire hommage à Alice parce que d'abord, Alice, qui a commencé à travailler avec Fanon en 55, elle était une jeune femme qui venait de joindre le FLN. C'était une décision très courageuse. Elle venait d'un milieu juif en Algérie. Elle était une femme de gauche. Ses parents avaient peur quand ils ont découvert ce qu'elle avait fait. Elle avait payé avec l'exil. Elle était obligée de quitter l'Algérie, comme Fanon, qui était expulsé en 57. Et pendant toute cette période de temps où les Français essayaient d'oublier Fanon, parce que Fanon était en quelque sorte le souvenir d'une guerre sans nom que les Français ne voulaient pas discuter, ne voulaient pas
Regardez,
Alice a continué à parler de Fanon, pas simplement comme militant, mais comme penseur.
Et elle rappelle cette audace incroyable, dont elle est la témoin oculaire, qui va bientôt s'accompagner d'un engagement aux côtés des indépendantistes algériens au sein même de l'hôpital. Alors, quel lien vous faites Adam Schatz, entre Fanon l'Antillais et Fanon l'Algérien?
Il y a ceux qui disent que Fanon a oublié ses origines antillaises. Par exemple, le penseur juif tunisien Albert Memmi, qui dans un papier publié 10 ans après la mort de Fanon, intitulé « La vie impossible de Franz Fanon », a dit que le vrai problème pour Franz Fanon, ce n'était pas comment être algérien, c'était comment être antillais. J'ai une lecture très différente. À mon avis, Fanon a quitté la Martinique, mais la Martinique ne l'a jamais quitté. On peut trouver les traces de son héritage antillais dans sa langue très poétique et aussi dans la façon dans laquelle il parle de la colonisation et de la décolonisation, parce que « Les damnés de la terre » est un livre que seulement un Antillais aurait pu écrire. On voit que dans ce livre, l'image qu'il donne de la lutte entre le colon et le colonisé est beaucoup influencée par sa lecture de l'histoire des sociétés de plantation raciale dans les vieilles colonies.
Donc ce n'est pas seulement l'observation, puis sa propre implication dans la guerre d'indépendance algérienne qui va nourrir sa pensée.
Non, je dirais que c'est...
Ce sont des évolutions, des révolutions successives.
Absolument, et je dirais aussi qu'il y a un imaginaire antillais, même dans sa perspective sur la révolution algérienne. Pourtant, il y a une autre chose que je dois dire, c'est qu'en Algérie, Fanon a découvert un peuple, le peuple algérien, musulman, qui a refusé le masque, contrairement aux Antillais. Et il y a une sorte d'ambivalence, même une sorte de honte dans ce qu'il écrit sur les Antillais. On oublie, à mon avis, le fait que peau noire, masque blanc n'est pas seulement une critique du racisme des Blancs, c'est une critique du désir de l'assimilation chez les Antillais.
Est-ce que cela veut dire, Adam Schatz, que pour vous, finalement, il trouve chez les Algériens ce qu'il reproche aux Antillais?
Exactement.
Alors, Frantz Fanon, il est dans son hôpital à Blida, il commence à s'investir justement aux côtés des Algériens dans cette lutte pour l'indépendance, il va soigner des maquisards, etc., etc. Et il va finir par démissionner, parce que c'est intenable. Il démissionne de son poste de l'hôpital de Blida, et dans la lettre qu'il écrit au ministre résident d'Algérie, Robert Lacoste, il accuse la volonté française de décérébraliser un peuple, et il ajoute « Ma décision est de ne pas assurer une responsabilité coûte que coûte, sous prétexte qu'il n'y a rien d'autre à faire. » On retrouve notre Fanon bagarreur. Comment vous comprenez ce choix?
Fanon s'est aperçu que pour désaliéner la population de l'Algérie française, il fallait libérer le pays de la domination française et que, avant que ça se passe, son travail sera impossible.
Au sein de l'hôpital. Il est donc très engagé, il risque l'arrestation, il risque la torture, voire l'exécution. Et Fanon, c'est aussi, à ce moment-là, Fanon l'Algérien, l'auteur de l'an 5 de la Révolution algérienne.
La guerre d'Algérie entre bientôt dans sa 6e année. Personne parmi nous, comme dans le monde, ne soupçonnait en novembre 1954 qu'il faudrait se battre pendant 60 mois avant d'obtenir que le colonialisme français desserre son étreinte et donne voix au peuple algérien. Après 5 ans de lutte, aucune modification politique n'est intervenue. Les responsables français continuent de proclamer l'Algérie française. Cette guerre a mobilisé le peuple dans sa totalité, l'a sommé d'investir en bloc ses réserves et ses ressources les plus cachées. Le peuple algérien ne s'est pas donné de répit, car le colonialisme auquel il est confronté ne lui en a laissé aucun. La guerre d'Algérie est la plus hallucinante qu'un peuple ait menée pour briser l'oppression coloniale.
Les mots de Frantz Fanon, extraits de l'an 5 de la Révolution algérienne, ou comment Frantz Fanon interprète et transforme la lutte de libération algérienne en un symbole mondial de résistance à la domination. C'est ce que vous écrivez, Adam Schatz, dans votre livre, votre biographie intellectuelle et politique de Frantz Fanon, Une vie en révolution. Est-ce que c'est ça qui est absolument fondamental si l'on veut comprendre l'impact encore aujourd'hui et de plus en plus de Frantz Fanon, notamment sur la jeunesse? Il a su faire quelque chose de plus grand de l'expérience de la lutte en Algérie aux côtés des Algériens?
Oui, il essayait d'universaliser la lutte algérienne, qui était, bien sûr, une lutte nationaliste contre la domination étrangère, mais qui, pour Fanon, représentait quelque chose de plus large. Une guerre de libération universelle avec laquelle des étrangers pouvaient sympathiser. C'était un peu comme la guerre d'Espagne pour Fanon. Et il faut rappeler que son mentor à Saint-Alban, François Tosqueyes, avait organisé les services psychiatriques pour les soldats des trotskyistes. Il était un peu le Tosqueyes de la révolution algérienne.
Ce qu'avait fait Tosqueyes pendant la guerre civile espagnole, en quelque sorte, était une forme de modèle pour ensuite Fanon dans la révolution algérienne.
Oui, c'était un modèle, mais c'était aussi un modèle qui voulait dépasser. Et ce qu'il a fait, parce qu'il a continué à pratiquer la psychiatrie à Tunis et à le radicaliser.
charbon, la chapine. Le coulis, la peau chapée, la grosse babine. La tête grainée qu'on adoucit à la vaseline. Et le créole et son mélange de mélanine. Connais-tu le morne et la ravine? Le béquet qui très souvent tient les usines. La maquerelle qui passe son temps chez la voisine. Et le crack et ses déchets de cocaïne. Connais-tu le Montpellé et la savane? Les pêcheurs du Carbet, les poissons de tartane. Et les touristes aux seins nus à la plage des Salines. Pendant que la crise de la banane s'enracine. Connais-tu France Fanon, Aimé Césaire, Eugène Mona et Thierry-Émile? Sais-tu que mes cousins se foutent des bains de mer? Et que les cocotiers ne cachent rien de la misère. Chez moi, j'y vais par période. C'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes. Et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période. C'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes. Et puis sur la table, du crabe, du shrub. Sais-tu qu'on soigne tout avec le rhum? La tristesse, les coupures et les angines. Que d'Afrique de l'Ouest et d'Inde sont nos origines. Que l'on mange riz et curry comme tu l'imagines. Sais-tu que chez moi aux Antilles, c'est la grand-mère et la mère, le chef de famille. Que les pères s'éparpillent et que les jeunes filles élèvent seules leurs gosses, les nourrissent et les habillent. Sais-tu qu'on n'écoute pas David Martial? La compagnie créole et c'est bon pour le moral. Et que les belles doudous sont pas à la cuisine, à se trémousser sur un tube de zouk machine. Sais-tu que là-bas les petits garçons jusqu'à 4 ans doivent garder les cheveux longs? Et sais-tu aussi que mon prénom et mon nom sont les restes du colon britannique et breton? Chez moi, j'y vais par période. C'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes. Et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période. C'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes. Et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi.
Vous êtes bien sur RFI à l'écoute de Kazeï, auteure, compositrice, interprète. Elle chante Chez moi. Et elle aussi, elle cite Frantz Fanon, référence absolue de la résistance à la colonisation, comme le raconte notre invité Adam Schatz dans sa biographie, parue aux éditions La Découverte. Adam Schatz, après le masque antillais et algérien, le masque africain de Frantz Fanon, et nous sommes déjà presque à la fin de sa courte vie. Alors Fanon a démissionné avec fracas de l'hôpital de Blida à Alger. Il a rejoint les dirigeants du FLN dans le pays voisin, la Tunisie. Vous avez rappelé qu'il est à Tunis. Il intègre le journal El Moudjahid, qui est le journal des insurgés, aux côtés de Reda Malek et de Pierre Cholet. Et puis finalement, il se retrouve aussi au sein même des conflits du FLN. Est-ce qu'à ce moment-là, Fanon va pas un peu laisser tomber sa pureté pour accepter certains compromis?
Absolument. C'est le moment où Fanon, le rebelle, le dissident, devient Fanon, le bureaucrate révolutionnaire qui doit adhérer aux ordres de son organisation, même au prix de risquer ses principes. À sa première conférence de presse à Tunis en 57, Fanon dit que c'est les Français qui sont responsables pour un massacre dans le village de Melouza Mekta, tandis que c'était le FLN qui tuait des membres du mouvement national algérien, le mouvement de Messali Hadj, qui était le père fondateur du nationalisme algérien, qui était, on peut dire, le père des fils du FLN. Et Fanon le savait, mais il n'avait pas beaucoup de choix.
Et Fanon est envoyé par le FLN comme un ambassadeur, en quelque sorte, du FLN dans les pays africains, notamment à Accra, le pays de Nkrumah, dépendant depuis 1958. Il arrive avec l'identité de docteur Omar Ibrahim Fanon, pour représenter donc le GPRA. Il fait des conférences, et notamment pour la jeunesse africaine. Écoutez ce souvenir d'Hélène Moretefi, militante américaine. Elle accueille Fanon à Accra.
La première fois, c'était à Accra, au Ghana, sur le campus de l'université d'Accra. J'allais vers une salle de conférence et il y avait une conférence internationale que j'avais organisée. C'était une conférence d'une organisation mondiale de la jeunesse. Il m'a arrêté pour me demander où se passait le congrès de cette association de jeunesse. Je lui ai dit que j'y allais et que je pouvais le conduire. Il était à l'époque le représentant du GPRA, c'est-à-dire le gouvernement provisoire de la République algérienne. Il venait tous les jours. Un soir, avec lui, je suis allée danser dans un club à Accra. C'était quelqu'un qui savait aussi s'amuser. Il pouvait être drôle, il aimait danser, il aimait chanter. C'était un homme plein d'esprit et de vie. C'était un petit bonhomme assez osseux et assez maigre. C'était un homme mordu. C'était un homme qui avait la politique dans le sang. Il ne s'arrêtait jamais. Il pouvait parler éternellement. On discutait pendant des heures. Et nous circulons dans les différentes réunions des comités, etc. On écoutait, et ensuite on commentait. C'était très riche comme expérience. C'était un intellectuel qui savait parler aux gens. Il était clair, très clair. Et au-delà de cette cause pour l'indépendance de l'Afrique, et en plus de l'Algérie, que l'homme soit libre, que l'homme soit capable de se réaliser, toutes ces choses-là, on le sentait en lui. Et c'était un idéaliste extraordinaire.
Que l'homme soit libre, mais j'ai envie de vous demander, Adam Schatz, à quel prix ? Parce que la question de la violence et de la radicalité de Fanon a toujours fait polémique.
Mais d'abord, je dois dire que je suis très touché d'écouter la voix d'Hélène Klein Moktafi, qui est une amie. En fait, je suis installé chez elle aujourd'hui à Paris et je la connais depuis longtemps et elle est un personnage dans ce livre et on peut entendre son enthousiasme éternel pour l'exemple de Fanon. Et elle met le doigt sur quelque chose qui, à mon avis, est fondamental, c'est que Fanon était un penseur de liberté. Et c'est la liberté qui est au cœur de ses travaux, pas la violence. La violence est là, il faut en discuter, mais il était un philosophe de liberté.
Alors à quel prix, justement ? Jusqu'où la violence ?
À un prix terrible. Et c'est là qu'on trouve une contradiction flagrante ou peut-être une tension productive, ça dépend de votre avis, dans ses ouvrages. C'est que pour Fanon, la violence est une nécessité pas simplement pragmatique, pas simplement politique, mais aussi psychologique pour les opprimés. Parce que pour Fanon, le colonisé est quelqu'un qui est humilié, subjugué, qui est immergé dans un désespoir, qui produit un sens d'impuissance et de fatalisme, et que seule la violence peut libérer le colonisé de cet état terrible. Alors pour lui, la violence est une sorte de thérapie de choc. Mais pourtant, il y a des nuances. Il cautionne contre certaines formes de violence. Il écrit que la haine, le désir légitime de la vengeance et le racisme antiraciste, une phrase qu'il emprunte de Sartre, ne peut pas soutenir à long terme une bataille de libération et qu'il y a même des gens dans la communauté des colons qui peuvent soutenir la lutte d'indépendance. Et Fanon le savait parce qu'il était même recruté par les progressistes chrétiens dont le docteur Pierre Chollet que vous avez évoqué. Et il y a aussi le dernier chapitre des Dents et la Terre, guerre coloniale et troubles mentaux, où il anatomise avec beaucoup de précision les traumatismes infligés par la violence, pas seulement la violence coloniale, mais aussi la violence anticoloniale.
Et c'est justement avec un dernier extrait des damnés de la Terre, que nous allons terminer ensemble ce dernier chapitre sur Fanon, l'Africain.
Donc, camarades, ne payons pas de tribut à l'Europe en créant des États, des institutions et des sociétés qui s'en inspirent. L'humanité attend autre chose de nous que cette imitation caricaturale et dans l'ensemble obscène. Si nous voulons transformer l'Afrique en une nouvelle Europe, l'Amérique en une nouvelle Europe, alors confions à des Européens les destinées de nos pays. Ils sauront mieux faire que les mieux doués d'entre nous. Mais si nous voulons que l'humanité avance d'un cran, si nous voulons l'apporter à un niveau différent de celui où l'Europe l'a manifesté, alors il faut inventer, il faut découvrir. Si nous voulons répondre à l'attente de nos peuples, il faut chercher ailleurs qu'en Europe. Davantage, si nous voulons répondre à l'attente des Européens, il ne faut pas leur envoyer une image, même idéale, de leur société et de leur pensée, pour lesquelles ils éprouvent épisodiquement une immense nausée. Pour l'Europe, pour nous-mêmes et pour l'humanité, camarades, il faut faire peau neuve, développer une pensée neuve, tenter de mettre sur pied un homme neuf.
Dernier extrait des Damnés de la Terre, lu par Guy Monga. Adam Schatz.
Je suis très heureux que vous avez choisi ce passage. Fanon dit « il faut inventer, il faut découvrir ». Et il parle de la décolonisation, il parle du projet politique des peuples opprimés après l'indépendance. Pour Fanon, la décolonisation n'était pas seulement un événement, c'était un processus, c'était même une aventure politique et intellectuelle. Et il fallait construire une nouvelle société qui peut donner naissance à une humanité nouvelle. Et pour moi, ce passage évoque les rêves et les espoirs utopiques de Fanon.
Merci beaucoup. Adam Schatz, Frantz Fanon, une vie en révolution. C'est aux éditions La Découverte. Ainsi s'achève ce nouvel épisode de La Marche du Monde, les masques de Fanon, signés Valérie Nivelon, Sophie Janin et Lina Le Bourgeois, avec les précieuses archives de Lina. Plus d'infos sur la page internet de La Marche du Monde, réagissez sur notre Facebook et Twitter. Abonnez-vous à notre podcast via l'application RFI Pure Radio. Cette émission, encore et toujours, c'est la vôtre.
Oui à la vie. Oui à l'amour. Oui à la générosité. Le moi se pose en s'opposant. Oui et non. Oui à la vie. Oui à l'amour. Oui à la générosité. Mais l'homme est aussi un non. Non au mépris de l'homme. Non à l'indignité de l'homme, à l'exploitation de l'homme, au meurtre de ce qu'il y a de plus humain dans l'homme, la liberté.